Rebonjour à tous. Nous sommes à la veille de la rentrée, il est donc temps pour nous de réviser. C'est ce que je vous propose ce matin, que nous revenions sur l'Évangile, sur ce qu'est l'Évangile pour nous, qui nous sommes en Christ. Et sûrement, vous le savez, chacun de nous se pose deux questions. Est-ce qu'il est juste qu'à cause d'Adam, de sa faute à lui, je sois moi aujourd'hui, par nature, un pécheur, comme le dit la Bible? Et une autre question aussi qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est juste que seulement par Jésus-Christ, ce qu'il a fait à la croix pour moi, je sois, comme le disait tout à l'heure Jonathan, justifié? Pourquoi un homme à l'origine de l'humanité et un autre homme il y a 2000 ans jouent à eux deux tout ce que je suis et la portée pour l'éternité? C'est quand même déroutant. Et c'est ce que je vous propose ce matin que nous étudions ensemble. Mais avant ça, je voudrais prier. Seigneur, nous rentrons là dans les pensées qui sont les tiennes. Et nous te demandons qu'au travers de ta parole, ce matin, tu fasses éclater à nos yeux, comme au premier jour, toute ta puissance, ta sainteté, et que tu nous inondes de ta grâce, Seigneur, par ta parole et ton esprit. Donne-nous un cœur qui redécouvre de nouveau qui tu es et ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Amen. Alors, le texte de ce matin que nous allons étudier, je vais le prendre dans l'Épître aux Romains. Et l'Épître aux Romains, comme vous le savez sûrement, la thèse que défend Paul dans l'Épître aux Romains, dans toute la première partie, les 10 premiers chapitres, c'est que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, ce qu'il développe au premier chapitre. Et puis, ce message a pour conséquence que, et c'est ce que veut démontrer Paul, que n'importe qui peut être sauvé par la foi en Jésus. Et si n'importe qui peut être sauvé, c'est parce que tout le monde est condamné, parce que tout le monde est pécheur, que ce soit les non-juifs comme les juifs. Et dans l'Antiquité, le monde était divisé pour les juifs en deux parties, eux, les juifs, et les non-juifs. Donc le monde entier est sous le péché, est éloigné de Dieu, est condamné à la mort. Et puis il démontre après, à partir du milieu du chapitre 3 et au chapitre 4, que Dieu, comme le disait tout à l'heure Jonathan, nous a justifiés de pécheurs, nous a rendus justes par l'œuvre de Christ à la croix. Puis il développe ça en développant que c'est uniquement la foi qui peut nous sauver avec l'exemple d'Abraham. Et puis il continue après, au chapitre 5, à développer les conséquences de ce salut, que nous avons la paix avec Dieu, que Dieu n'est plus en colère, que nous avons la vie éternelle et toutes ces choses-là. Et puis, il revient, excusez-moi, il faut que je prenne ma commande, c'est allumé ? Il revient à partir du milieu du chapitre 5, où il replace le salut dans le contexte du plan merveilleux de la rédemption de Dieu. Et il va comparer la chute d'Adam avec le triomphe de Christ. Et donc, je vous laisse ouvrir votre Bible maintenant au chapitre 5, et nous lirons ce matin les versets 12 à 21. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Je les lirai dans la version dite du semeur. Alors, nous allons voir qu'il y a donc deux grands thèmes, deux grands points que Paul développe dans ce texte. C'est qu'il y a la chute d'Adam et ses conséquences pour nous. Et puis après, il va développer le triomphe de Christ et ses conséquences pour nous. Un programme passionnant. Et nous allons donc commencer par la première partie, donc la chute d'Adam et ses conséquences. Et je voudrais lire D'abord, les versets 12 à 14, et puis nous couperons la lecture, nous continuerons plus tard. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à Adam. Et je m'arrête ici pour la lecture. Nous allons faire, sur ce deux versets, trois constatations. Et je vous ai mis le premier verset, comme vous voyez, dans une forme spéciale, ça nous permet de comprendre l'intention de l'auteur. La pensée hébraïque, souvent, s'exprimait dans ce qu'on appelle une figure littéraire, c'est des chiasmes. C'est un nom technique, je ne sais même pas pourquoi je vous l'ai dit, on n'a pas besoin pour comprendre. Mais et en fait, le but est de mettre au centre de la pensée, ce n'est pas une pensée qui est linéaire comme nous, mais c'est une pensée qui est circulaire. Et de mettre au cœur de la pensée le point d'orgue, le point central de ce qu'il veut dire. Et autour de ce point principal est organisé des parallèles. Et comme vous pouvez le voir, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, la conséquence finale. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, qui fait écho au péché qui est entré dans le monde, ça a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché, parce qu'un seul homme a péché. Vous voyez un petit peu ces parallèles qui... Enfin, ça se rejoint, donc ce n'est pas vraiment parallèle, mais deux droites qui se rejoignent, je ne sais plus ce que c'est. Je ne suis pas bon en mathématiques, c'est comment ? Qui convergent, voilà, exactement, si, oui, c'est converge, c'est évident. Alors, nous allons faire maintenant, sur ce texte et le verset qui suit, trois remarques. Premièrement, ce que nous constatons, voilà, excusez-moi, oui, j'allais oublier ça, voilà la pensée en forme linéaire, c'est que il y a au début Adam, le péché d'Adam entraîne toute l'humanité qui est condamnée et la mort éternelle pour tous les hommes. Ce constat fait mal pour nous. Et donc maintenant, nous passons à trois constatations dans ces versets. La première chose que dit Paul, que nous devons retenir, c'est que le péché est entré dans le monde par la chute d'Adam. Alors, pourquoi Paul parle-t-il de la chute d'Adam ? Parce que moi, si je me souviens bien, quand j'ai lu la Genèse, c'est d'abord Ève en premier qui a chuté, puis Adam. Mais Paul inculpe Adam. Il lui incombe la responsabilité du péché, de l'entrée du péché dans le monde. Pourquoi cela ? Effectivement, Ève a péché en premier, mais quand Dieu est venu à la rencontre de ce couple qui avait péché, Dieu a dit « Adam, où es-tu ?» Et il a voulu régler les comptes, s'expliquer avec Adam. Pourquoi ? Eh bien parce que Adam avait été établi comme représentant de son épouse et représentant de l'humanité. Et si Satan est venu d'abord tenter Ève, de grâce, j'ai lu récemment aussi dans des commentaires que la raison, c'est parce que la femme est bien plus faible que l'homme face au péché et qu'elle est bien plus émotive et que Satan a su comment la prendre. Nous sommes tous égaux face au péché, tous égaux. Mais si Adam s'est attaqué à Ève, c'est parce qu'en s'attaquant à Ève, il s'attaquait aussi à la structure, à l'ordre, à l'autorité établie par Dieu dans le jardin d'Éden que Adam incarnait. Et il a voulu retourner ça. C'est un acte de rébellion qu'il pousse jusqu'au bout. Deuxième constatation, c'est que dans ce texte, Paul nous dit que la chute est maintenant pour l'humanité en Adam. Et alors je reviens à ma question d'origine, pourquoi nous sommes tous condamnés pour la faute d'Adam ? Mais comme je l'ai dit, lors de la création, Dieu a établi Adam comme étant représentant de l'humanité. Et en tant que représentant de l'humanité, étant le premier homme créé, Dieu a fait une alliance avec Adam. Alors peut-être que le terme alliance ne s'y trouve pas, enfin c'est même sûr, le terme alliance ne s'y trouve pas, mais nous retrouvons dans le texte de la Genèse tous les éléments constitutifs d'une alliance. Ils sont tous présents. C'est comme si je vous décris une voiture, un châssis, des roues, un volant, des vitres, des portes, sans mentionner le nom voiture, tout de suite, vous savez que je vous parle d'une voiture. Eh bien, quand nous lisons le texte, que nous avons à l'esprit les éléments clés d'une alliance, nous pouvons la retrouver. De plus, en Osée chapitre 6, verset 7, que je vous lis maintenant, pas besoin d'aller les chercher. Alors, il y existe deux versions, mais la version Summer, les versions récentes, le traduisent comme ceci. « Mais vous aussi, par les Israélites, tout comme Adam, vous avez transgressé l'alliance. » Alors, certaines anciennes versions traduisent Adam par « homme ». Mais Adam veut dire « homme », « humanité ». C'était son titre, il l'a appelé « humanité » parce que c'était le premier humain. Donc certaines vieilles traductions l'avaient traduit comme étant l'humanité, mais dans le contexte, c'est évident qu'il parle bien de Adam, le personnage historique. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a tous les éléments constitutifs d'une alliance. Premièrement, il y a les deux parties, Dieu, représentant de lui-même, et Adam, représentant de l'humanité. Et puis, il y a une promesse de bénédiction. Et quelle promesse ? Nous pouvons la lire en Genèse 2, verset 25, que Dieu promet une vie qui n'a pas de fin, de pouvoir que Adam puisse régner sur toute la création, se multiplier, avoir une descendance immense et jouir de tous les bienfaits de la création. Quelle promesse ! Et en plus de ça, la présence de Dieu à ses côtés, une communion parfaite avec son Créateur. Mais il y avait une condition, c'était l'obéissance d'Adam. Et allié à cette désobéissance, il y avait une promesse, là, de malédiction, qui était bien évidemment la mort physique, la mort spirituelle et la séparation éternelle avec Dieu. Soit le total inverse de la promesse de bénédiction. Et donc, comme je l'ai dit, cette condition, c'était son obéissance. Et Adam a désobéi. Son péché, c'est une transgression. Il a désobéi. Et il a, pour pouvoir acquérir la connaissance du bien et du mal, il a perdu la connaissance de Dieu. Il a perdu ce lien vital avec Dieu. Perdant ce lien vital avec Dieu, Dieu qui est le seul source de la vie, Dieu l'a condamné à mourir. C'est à la fois un jugement et une conséquence logique, parce que le lien qui le maintenait dans la vie, qui était sa relation avec Dieu, n'était plus là. Et donc la conséquence pour la mort éternelle, spirituelle et physique. Adam, en tant que tête représentant de l'humanité, représentant juridique, c'est ce que Paul développe un peu plus loin dans le texte, nous le verrons, a entraîné toute l'humanité dans le péché avec lui. Et donc, aujourd'hui, la nature même, notre nature, c'est une nature de pécheur. Ce qui veut dire tout simplement, pas que nous ne faisons que du mal, mais que nous sommes incapables de ne pas faire du mal dans notre vie. Et donc, ce constat de Paul, c'est qu'aujourd'hui, toujours, nous sommes sous cette punition. Elle est toujours en vigueur. Et j'ai appris, ces derniers temps, à poser une question que je pose systématiquement quand je parle de la foi, de la vie avec quelqu'un. Je pose cette question. À ton avis, est-ce que l'homme est fondamentalement bon, mais malheureusement il est capable de faire des choses mauvaises, ou est-ce qu'il est fondamentalement mauvais, mais heureusement il est capable de faire de bonnes choses ? La plupart des gens croient que nous sommes fondamentalement bons. C'est vrai. J'ai cru ça pendant des années et des années. Mais qu'au final, c'est la société qui nous corrompt, disait Rousseau. Mais non, l'homme, nous dit la Bible, dans sa nature même, indépendamment de ce qu'il peut faire, est pécheur et mauvais. Et j'hérite de cette chute d'Adam. Et je voudrais illustrer ça comme ceci. Je m'appelle Raphaël Charrier. Je suis un charrier. Comme j'ai hérité ce nom de mon père, qu'il a lui-même hérité de son père, qu'il a hérité de son père, etc. Je suis un charrier. que demain je sois président de la République ou que je devienne le terroriste le plus connu sur la Terre, je serai toujours un charrier. C'est mon nom. Et je serai toujours de la lignée d'Adam, naturellement. Tous les hommes sont de la lignée d'Adam. Est-ce que vous saisissez ? C'est clair ? C'est pas forcément quelque chose de facile à... Mais, par exemple, un autre exemple. Si demain, François Hollande, avec les autres nations, s'engage à entrer en guerre contre Bachar al-Assad et la Syrie, Adam est le représentant de toute la France. Et Adam nous intégrera... Le président Hollande, en tant que représentant, s'engagera pour nous tous, parce qu'il est notre représentant. Et donc toute la France sera appelée à rentrer en guerre. C'est la même chose. Et donc, cette vérité-là que nous dit la Bible, c'est que nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais parce que nous sommes pécheurs, nous péchons. C'est notre nature qui induit nos actes. Et est-ce que cette nature héréditée nous enlève à nous notre responsabilité de ce qu'on fait ? Ah ben non, c'est à cause d'Adam, donc si je suis comme ça, après tout, ce n'est pas ma faute. Dieu ne peut pas me rendre responsable de quoi que ce soit. Eh bien non, parce que nous tous, nous péchons. Parce qu'étant de la même nature qu'Adam, à sa place, nous aurions fait la même faute que lui. Et parce que, au fond, nous devons reconnaître que nous aimons le péché. Et Henri Blocher fait cette synthèse, il dit « C'est à cause du péché d'Adam que nous sommes punis pour les autres. » Et à ce moment de son développement, Paul introduit donc une troisième chose, c'est la chute à cause de la loi. Quel a été le rôle de la loi ? Vous connaissez sûrement ce dicton que nous avons tous dit quand nous jouions ensemble au ping-pong ou au baby-foot. Attention, règle non énoncée est une règle non transgressée. Vous connaissez sûrement ça. Ah, j'avais pas le droit de faire ça, mais je ne le savais pas, donc je n'ai pas fait une faute. Et là, Paul lutte contre cette idée, c'est que si la loi n'avait pas été énoncée, la loi avait quand même été transgressée. La preuve, il y avait la conséquence de la mort avant que la loi soit donnée à Moïse. Mais que la loi, le but de la loi, était un révélateur. Mon père est photographe. Quand j'étais petit avec lui, nous faisions de la photo. Il avait un labo qui était enfermé dans le noir, vous savez, avec la lumière rouge, vous avez peut-être vu ça dans certains films. Et il projetait l'image sur du papier photo. Et quand on regardait ce papier photo, l'image était blanche. Mais il y avait un bain chimique qui s'appelle le révélateur. Et cette feuille blanche, pourtant il y a la photo qui est inscrite dessus, mais on ne la voit pas, il l'a plongée dans le révélateur, et d'un coup, comme par magie, tout remontait à la surface. Le révélateur révélait la photo. Eh bien, la loi révèle le péché pleinement aux hommes. Dieu nous a donné la loi pour refléter son caractère moral. Mais pour appliquer parfaitement cette loi, il faudra avoir le même caractère que Dieu. Or, nous sommes pécheurs. Et Dieu savait très bien que nous ne pourrions pas obéir à toutes les exigences de la loi. Et donc cette loi avait aussi une portée didactique qui était pédagogique, qui était de nous montrer à tous que nous ne pouvions nous sauver par notre propre obéissance, parce que nous sommes incapables d'obéir parfaitement aux exigences de Dieu. Donc Dieu n'est pas un sadique. Mais il a donné la loi pour nous révéler que nous avions besoin d'être sauvés par lui. Alors que doit-on faire avec ça ? C'est ce que Jésus voulait rappeler aux pharisiens, parce qu'ils pensaient que par leur obéissance à la loi, ils pouvaient être sauvés. Et Jésus leur a rappelé que comme il faut avoir à l'esprit, reconnaître que l'on est malade pour accepter d'aller consulter un médecin, il faut reconnaître que nous sommes pécheur pour accepter d'avoir un sauveur et d'être sauvé que par lui. Et donc, chaque disciple de Jésus, chaque chrétien, obligatoirement est quelqu'un qui a reconnu sa banqueroute, son échec à obéir parfaitement à Dieu et qui le reconnaît devant lui et qui en appelle à son secours, à son sauveur. Et donc si Paul démontre le lien entre le péché d'Adam et notre nature pécheresse aujourd'hui, c'est dans un but précis, c'est que, retenez bien ceci, étant en Adam, nous avons tout hérité d'Adam. Mais étant en Christ, nous recevons tout de Christ. Nous héritons tout de lui. Et regardez la fin du verset 13. Paul fait le lien entre Adam et Jésus. Le verset 14, excusez-moi, je n'ai pas lu la fin exprès tout à l'heure. Je relis. La faute d'Adam, une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Les autres traductions disent qui est le type de celui qui devait venir. Le lien que fait Paul, c'est que Adam, en tant que chef de l'humanité devant Dieu, préfigurait Jésus-Christ en tant que nouveau chef d'une nouvelle humanité devant Dieu. Adam est le représentant de l'humanité qui a chuté, et Christ, lui, est le représentant de l'humanité qui a triomphé. Et sur cette comparaison, il va donc développer à lui. Les versets suivants, il va comparer la conséquence donc, du péché d'Adam avec la conséquence de l'œuvre à la croix de Jésus et de son triomphe. Et nous arrivons donc à la deuxième grande partie, et je vais lire les versets 14 à 21. « Et pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam. Qui est comparable à celui qui devait venir ? Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. » Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu ? En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Le langage juridique encore. Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce texte est merveilleux. À la première lecture, il nous semble un petit peu complexe. Il y a énormément de comparaisons, mais vous allez voir, en observant la structure, j'ai accentué exprès sur quelques éléments de la phrase, on remarque qu'il y a, mais à la différence, quelle différence il y a ? À bien plus forte raison, Paul sans cesse fait ce ping-pong entre la chute d'Adam et le triomphe de Christ. Et ce que nous allons voir, c'est que son but est de montrer aux chrétiens la supériorité, l'excellence de l'œuvre de Christ, de son triomphe. Et comme nous avons vu, de la même manière que la chute d'Adam nous a entraînés vers la mort éternelle, tous, que Jésus, par son obéissance, l'obéissance jusqu'à la croix, nous accorde, nous fait rentrer dans une nouvelle humanité justifiée par la foi et nous accorde la vie éternelle. L'inverse total de la chute de l'œuvre d'Adam. Et premier élément de ce triomphe, c'est qu'on voit que Christ a triomphé par son plan qui était à venir. La jonction entre les deux, il introduit cette comparaison en disant Adam qui est semblable à celui qui était à venir. Ce que Paul veut dire par là, c'est que l'un, Adam, est prévu par Dieu pour anticiper l'autre, Jésus, pour l'annoncer, pour le préfigurer quelque part. Depuis le commencement, la conséquence de cela, c'est que depuis le commencement, Christ était celui qui devait venir et que c'est dans ce sens que Adam est un type de Christ. Pourquoi devait ? Parce que la chute d'Adam et la venue de Christ sur la croix faisaient partie du plan éternel de Dieu. Et ce que je vais vous démontrer, je le fais vraiment en toute humilité, parce que c'est quelque chose qui nous fait trembler et qui nous met face à un Dieu infiniment sage. Et nous, nous sommes limités, un frère le disait tout à l'heure. Le mystère est grand, mais en nous plongeant dans sa parole, tout est clair. Si je comprends bien la parole, à la lumière des autres textes que je vais vous citer pour appuyer cela, la chute d'Adam et la chute de l'humanité avec lui, cette chute tragique dans le péché, et la mort de Christ à la croix, n'ont pas pris le Dieu souverain en défaut. Tout ce que Dieu permet, il le permet dans un but précis. Et Dieu n'est dépassé par aucun événement, ni surpris par aucun événement, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il connaît tout, qu'il maîtrise tout, qu'il est saint et qu'il est infiniment sage, et que son plan se déroule selon le désir de sa volonté. Apocalypse 13, verset 8, je vous le cite. Ceux dont le nom a été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Réalisons cette phrase. Le nom écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ce texte nous dit que Dieu a prévu avant la fondation du monde que son fils serait tué comme un agneau pour nous. Alors s'il avait prévu le sacrifice de son fils, c'est parce qu'il avait prévu, anticipé, qu'il y aurait la chute. 1 Pierre 1,20 nous dit « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » Intéressant. « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. » Et nous pourrions lire encore Éphésiens 1, 4 et 5, 2 Timothée 1,9, Tite 1, 1 et 2. Et ces textes sont troublants, mais sont limpides. Avant la fondation du monde, Dieu savait qu'il y aurait la chute. Et Dieu avait prévu que son fils, son propre fils, viendrait mourir sur la croix à notre place. Avant la fondation du monde, Dieu a prévu la chute dans le but principal qui est de glorifier son Fils. Le Fils, lui, de toute éternité, a prévu de devenir homme, d'ajouter à sa nature divine la nature d'Adam, d'obéir parfaitement et honorer les termes de l'alliance que Dieu avait fixés à Adam. Lui, il a obéi parfaitement à ça. Il a obéi parfaitement à la loi de Moïse. Alors qu'Adam a chuté face à la tentation d'Adam, Christ a triomphé et Christ a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi jusqu'à prendre notre péché, notre condamnation sur lui à la croix. Son obéissance a été jusqu'à son sacrifice à la croix pour nous. Et le rôle du Père, lui, bien sûr, qui n'est pas dit dans ce texte, mais ce n'était pas l'initiative simplement du Fils, mais une initiative du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et lui, le Père, comme le Fils a voulu y aller, le Père, lui, l'a envoyé. C'est incompréhensible, mais c'est une action conjointe. Le Père a envoyé le Fils. Le Père a promis au Fils qu'il lui enverrait son Saint-Esprit pour l'aider dans son ministère. Le Père a promis au Fils de le ressusciter de la mort et de lui accorder un peuple. Le peuple pour lequel il serait mort, il lui accorderait, il serait le nouveau chef de cette nouvelle humanité qui serait sauvée par la foi en son œuvre. Et il lui donnerait aussi la prérogative à lui, le Fils, d'envoyer le Saint-Esprit pour que lui, le Saint-Esprit, aide et fasse bénéficier au peuple sauvé, racheté, tous les fruits de l'œuvre de la rédemption et qu'il équipe ses enfants, ce nouveau peuple racheté, pour le servir et servir sa gloire sur terre et servir son nom pour que beaucoup soient sauvés. Pourquoi Dieu a voulu cela de toute éternité? Je ne sais pas. Mais Dieu est infiniment sage. Et à ses yeux, tout est parfaitement juste. Parce que Dieu est infiniment saint. Et dans ce mystère, nous y voyons seulement deux choses qui nous sont révélées, il me semble, dans la Bible. C'est que par la rédemption, c'était le meilleur moyen pour lui de faire éclater sa gloire aux hommes. Et que par la mort et la résurrection de Christ, c'était le meilleur moyen de nous attribuer toutes ses bénédictions et toute sa grâce. C'est ce que développe Paul dans l'épître au début de l'épître aux Éphésiens. Ce qui nous conduit au deuxième point, et nous allons accélérer parce qu'il ne nous reste juste que 2-3 minutes, c'est que Christ a triomphé par l'abondance de sa grâce. Ce que développe dans les versets 15 et 16. Dieu a manifesté toute la puissance, la totalité, l'entièreté de sa grâce. Ce que Dieu était capable de donner comme grâce, il l'a manifesté en envoyant son Fils sur la terre. Et encore là, la comparaison, de la même manière que Adam, la chute d'Adam a une conséquence sur tous les hommes, la grâce de Jésus-Christ a une conséquence sur tous les hommes. Mais il y a une différence, c'est que la grâce triomphe du péché. La grâce, quand elle rencontre le péché, le renverse, l'englobe comme un tsunami. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Combien de fois est-ce que nous péchons par jour? Alors je me suis amusé ces derniers jours à faire un petit calcul. Imaginons, en tant que transgression vraiment, je pêche 10 fois par jour, ce qui je pense est vraiment un niveau bas. Au bout d'une vie, si je vis environ 80 ans, j'ai calculé, ça fait autour de 300 000. Donc si nous sommes ce matin-là, ça fait à peu près 30 millions. Je suis meilleur en algèbre, je crois, qu'en géométrie. Ça fait à peu près 30 millions. En un instant, Christ peut prendre ces 30 millions de péchés, se les imputer à lui, les prendre avec lui, c'est ce qu'il a fait à la croix, et nous donner sa grâce. En un instant, pour quiconque, et pour n'importe quel péché, il n'y a pas un seul péché qui ne peut être couvert par la grâce de Christ, parce que c'est l'excellence de cette grâce, par cette grâce, il a triomphé du péché à la croix. C'est pas extraordinaire? Troisième chose, le triomphe pour le règne de la vie. Encore une fois, cette comparaison, la mort éternelle et la séparation à cause d'Adam, et là, le règne pour la vie. Et je crois que Paul, là, met la double perspective. Le règne pour une nouvelle vie, ici, aujourd'hui, par la justification, il parle de la nouvelle naissance qui nous est accordée, avec l'esprit qui nous est donné et qui ne nous rend plus esclaves du péché, avec cette capacité de dire non à la tentation, mais aussi avec cette promesse du règne avec Christ dans l'éternité. Et nous avons cette espérance qui nous est acquise, donnée aujourd'hui, pour celui qui croit en Christ, que pour l'éternité, il règnera dans un monde qui sera alors définitivement débarrassé de la mort et du péché à cause du triomphe de Christ. Mieux que l'Éden, infiniment mieux que l'Éden. Et il y a un homme qui s'appelle Augustin d'Hippone, un théologien du IVe siècle, et j'ai pris ça cette référence d'un ami Guillaume Bourin à Paris, qui a posté ça comme article. Et Augustin d'Hippone disait, voyez le plan de la rédemption en quatre étapes. Premièrement, l'humanité avant la chute est une humanité qui est à la fois capable de pécher et capable de ne pas pécher. Après la chute d'Adam, l'humanité était incapable de ne pas pécher. Mais pour ceux qui reçoivent aussi ce lien de Christ par la foi, cette nouvelle humanité, Christ comme nouveau représentant, ils deviennent capables de pécher, toujours, c'est notre nature première, mais aussi capables de ne pas pécher par la vie de son esprit en nous. Et à la fin, quand nous serons glorifiés et dans la présence de Dieu, dans la nouvelle création, nous serons incapables de pécher, parce que le péché n'existera plus et nous n'aurons alors plus aucun lien avec la malédiction d'Adam. En conséquence, je découvre une chose régulièrement qui m'encourage dans ma vie, c'est que souvent on se rappelle de la mort et de la résurrection de Christ. Et quand nous sommes loin de Dieu, que nous nous sentons salis par notre péché, nous nous disons mais... Enfin, si on a vécu une meilleure journée, on se sentirait plus proche de Dieu. Mais on se rappelle que Christ est mort pour nous. Mais nous devons nous rappeler aussi que Christ a vécu pour nous. La vie que j'aurais dû vivre aujourd'hui, lui, Christ l'a vécue sur terre à ma place. Et sa justice, il me l'impute. Et donc, c'est le quatrième point, le triomphe par le règne de l'excellence de son obéissance, où Christ, lui, comparé à Adam, a obéi parfaitement à Dieu et m'impute son obéissance, comme Adam m'a imputé sa désobéissance. Et aussi, bien sûr, le dernier, son triomphe, sa victoire sur la loi, là où la loi ne pouvait me sauver, lui, Christ, me sauve. Il a honoré Dieu par son obéissance à la loi parfaite, chose que je ne pouvais pas faire. Et il me transmet cette obéissance. La loi avait donc parfaitement rempli son rôle jusqu'à la venue de Jésus. Elle a fait abonder à nos yeux, elle a révélé devant nous, devant la face de l'humanité, son péché, pour que quand Christ vienne et porte sur la croix tout notre péché, il soit d'autant plus glorifié. C'est extraordinaire. Alors je voudrais maintenant conclure juste avec une image. La Bible nous parle aussi d'une alliance qui est le mariage. Le mariage est une alliance. Et imaginez, vous avez tous vu des Disney, je pense, la princesse qui est pauvre, la Cendrillon, qui est pauvre, qui a une mauvaise réputation, qui a des dettes, qui épouse le prince qui lui est beau, qui est riche et qui a un statut de roi. Que se passe-t-il quand il se marie ? Eh bien, le prince prend les dettes, prend le déshonneur, l'opprobre, prend les conséquences de sa vie et il donne lui en échange son nom, son titre et il la fait rentrer dans sa famille. C'est ce que Christ, c'est une nouvelle alliance que Christ lui-même fait pour nous et nous propose d'entrer. Et ce qui nous relie à Adam, c'est le péché. Et ce qui nous relie au triomphe de Christ, c'est la foi. Alors nous sommes tous concernés. À nous de savoir aujourd'hui qui nous représente devant Dieu. Est-ce Adam seulement ou Christ couvre Adam et se met devant nous pour nous représenter devant Dieu. Que Dieu fasse nourrir en nous ces pensées-là et renouvelle notre vision de cette grâce abondante. Amen.